J'entendis un craquement qui provenait d'en haut. Des voûtes du scriptorium tombaient des éclats de pierre mêlés à de la chaux. Une clé de voûte sculptée en forme de fleur se détacha et il s'en fallut de peu qu'elle ne s'abattît sur ma tête. Le pavement du labyrinthe était en train de céder. À vive allure, je dégringolai au rez-de-chaussée et sortis en plein air. Quelques servants de bonne volonté avaient porté des échelles à l'aide desquelles ils essayaient d'atteindre les verrières les plus hautes pour y jeter de l'eau. Mais les échelles les plus longues arrivaient à grand-peine aux verrières du scriptorium, et qui s'y étaient hissées ne pouvaient les ouvrir de l'extérieur. Ils firent dire de les ouvrir de l'intérieur, mais personne à présent ne s'enhardissait plus à monter. Cependant, je regardais les fenêtres du troisième étage. La bibliothèque tout entière ne devait faire désormais qu'un seul brasier à l'épaisse fumée, et le feu courait de pièce en pièce, ouvrant par bonds ses flammes aux milliers et milliers de pages desséchées. Toutes les fenêtres étaient maintenant illuminées. Une fumée noire sortait du toit. Le feu s'était communiqué au poutrage du comble. L'édifice, qui paraissait si solide et en tout point inébranlable, révélait en cette désastreuse circonstance sa faiblesse, ses lézardes, ses murs rongés jusqu'à l'intérieur, ses pierres déchaussées qui permettaient à la flamme d'atteindre les charpentes de bois où qu'elles fussent. Soudain, quelques verrières se brisèrent comme sous la poussée d'une force intérieure, les étincelles jaillirent à l'extérieur, piquant de lumières errantes le noir de la nuit. Le vent, soufflant d'abord avec force, était devenu plus léger. Et ce fut malchance parce que, fort, il aurait peut-être éteint les étincelles. Léger, il les transportait en redoublant leur ardeur, et avec elles, il faisait voltiger dans l'air des lambeaux de parchemin frémissant de fragilité dans leur flamboiement. C'est alors qu'on entendit un violent craquement. Le pavement du labyrinthe avait cédé en plusieurs points, s'effondrant avec ses poutres enflammées sur l'étage inférieur, car je vis des langues de flammes s'élever du scriptorium, lui aussi tapissé de livrets d'armoires et rempli de feuillets libres disposés sur des tables prêts à la levée des étincelles. J'entendis des cris de désespoir provenir d'un groupe de copistes qui s'arrachaient les cheveux et se proposaient encore de monter héroïquement pour récupérer leur parchemin tant aimé. En vain, car les cuisines et le réfectoire n'étaient plus qu'un carrefour d'âmes perdues s'agitant dans toutes les directions, où chacun faisait obstacle à l'autre. Les gens se heurtaient, tombaient, qui détenait un récipient en renversait le contenu salvateur. Les mulets entrés dans les cuisines avaient senti la présence du feu et ils se précipitaient en ruant vers les sorties, bousculant les moines et leurs palefreniers terrorisés eux-mêmes. On voyait bien que dans tous les cas, cette tourbe de vilains et d'hommes dévots et sages, mais inaptes au dernier degré, laissait la bride sur le cou, entraverait même les secours qui eussent pu arriver. Tout le plateau était en proie au désordre. Mais nous n'étions qu'au début de la tragédie. En sortant par les verrières et par le toit, la nuée triomphante des étincelles portées par le vent retombait de partout, touchant la couverture de l'église. Nul n'ignore combien de splendides cathédrales ont été vulnérables à la morsure du feu. Car la maison de Dieu apparaît belle et bien défendue comme la Jérusalem céleste, grâce à la pierre dont elle fait montre, mais ses murs, ses pendentifs et ses voûtes reposent sur une fragile, encore qu'admirable architecture de bois. Et si l'église de pierre appelle les forêts les plus vénérables par ses colonnes, qui se ramifient hautes dans les voûtes, audacieuses comme des chênes, de chênes elle a souvent le corps, comme elle a également de bois son mobilier, les autels, les chœurs, les planches peintes, les bancs, les chaises, les candélabres. Ainsi en alla-t-il de l'église abbatiale au superbe portail qui m'avait tant fasciné le premier jour. Elle prit feu en très peu de temps. Les moines et toute la population du plateau comprirent alors qu'était en jeu la survivance même de l'abbaye. Et ils se mirent tous à courir, encore plus bravement et confusément pour affronter le danger. L'église était certes plus accessible et donc plus défendable que la bibliothèque. La bibliothèque avait été condamnée par son impénétrabilité même, par le mystère qui la protégeait, par l'avarice de ses accès. L'église, maternellement ouverte à tous à l'heure de la prière, était ouverte à tous à l'heure du secours. Mais il n'y avait plus d'eau, ou du moins, il s'en pouvait trouver fort peu et en quantité insuffisante. Les sources en fournissaient avec une parcimonie naturelle et avec une lenteur non proportionnée à l'urgence de la tâche. Tous auraient voulu éteindre l'incendie de l'église, personne ne savait comment s'y prendre. En outre, le feu s'était communiqué par le haut, où il s'avérait malaisé de se hisser pour battre les flammes ou les étouffer avec de la terre ou des chiffons. Et lorsque les flammes sortirent d'en bas, Il était désormais inutile d'y jeter terre ou sable, car le plafond s'effondrait maintenant sur les sauveteurs dont bon nombre furent terrassés. Ainsi, au cri de regret pour toutes les richesses dévorées par les flammes, s'unissaient à présent les cris de douleur pour les visages brûlés, les membres écrasés, les corps disparus sous l'écroulement soudain d'une voûte. Le vent s'était fait de nouveau impétueux, et plus impétueusement il alimentait la propagation des flammes. Sitôt après l'église, prirent feu les sous, les étables, les bergeries et les écuries. Les animaux terrorisés brisèrent leurs liens, abattirent les portes, se répandirent à travers le plateau en hennissant, mugissant, bêlant, grognant horriblement. Des grappes d'étincelles se prirent dans la crinière de nombreux chevaux et on vit l'esplanade sillonnée de créatures infernales. De destriers flamboyants qui renversaient tout sur leur chemin n'avaient terme ni répit. Je vis le vieil Alinardo, qui errait et perdu sans avoir compris ce qui se passait, roulé sous les sabots du magnifique Brunel, auréolé de feu, traîné dans la poussière et resté là abandonné, pauvre chose informe. Mais je n'eus ni la possibilité ni le temps de le secourir, de pleurer sa faim, car de telles scènes se répétaient maintenant de partout. Les chevaux en flammes avaient transporté le feu là où le vent ne l'avait pas encore fait. À présent brûlaient aussi les ateliers et le logement des novices. Des troupes de personnes couraient d'un bout à l'autre de l'esplanade, sans but ou avec des buts illusoires. Je vis Nicolas, la tête baissée, l'habit en lambeaux, qui, vaincu désormais, à genoux dans l'allée principale, maudissait la malédiction divine. Je vis Pacifico le Tivoli, qui, renonçant à toute idée de secours, cherchait d'empoigner au passage un mulet emballé, et comme il y réussit, il me cria d'en faire autant et de fuir, pour échapper à ce torve simulacre d'Armageddon. Je me demandais alors où était Guillaume, et redoutais qu'il n'eût été emporté par un écroulement. Je le trouvais, après une longue recherche, aux alentours du cloître. Il tenait à la main son sac de voyage, tandis que déjà le feu prenait à l'hôtellerie. Il était monté dans sa cellule pour sauver au moins son très précieux bagage. Il avait aussi emporté mon sac, où je trouvais de quoi me revêtir. Hors d'haleine, nous nous attardâmes un instant pour regarder ce qui advenait autour de nous. L'abbaye était condamnée. Presque tous ses bâtiments étaient peu ou prou touchés par le feu. Ceux encore intacts ne l'auraient bientôt plus été, car tout maintenant, depuis les éléments naturels jusqu'à la besogne confuse des sauveteurs, collaborait à propager l'incendie. Restaient sauves les parties non bâties. Le potager, le jardin devant le cloître. Il n'était plus possible de rien faire pour sauver les constructions, mais il suffisait d'abandonner l'idée de les sauver pour pouvoir tout observer sans danger, en restant dans une zone découverte.